Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du lundi 16 septembre 2024. Voici le sommaire. L'ancien président américain Donald Trump est sain et sauf après des tirs près de lui alors qu'il se trouvait dans son club de golf en Floride. Un suspect a été arrêté. Une trentaine de personnalités dont les prix Nobel Denis Mukwege et Wole Soyinka appellent à la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, en détention depuis son renversement en 2023. En Guinée, le gouvernement a remis hier des terres aux milliers de victimes d'évictions survenues à Conakry sous les régimes précédents. Un tir de missile revendiqué par les rebelles houthis du Yémen a visé le centre d'Israël, exacerbant les tensions régionales en pleine guerre à Gaza. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Élisée Oumpatine. Mais pour commencer, voici le journal. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt lancer de nouveaux passeports biométriques, a déclaré hier dimanche le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Dans les jours qui viennent, un nouveau passeport biométrique de l'Alliance des États du Sahel sera mis en circulation avec pour objectif d'harmoniser les titres de voyage dans notre espace commun, a annoncé le colonel Goïta lors d'une allocution télévisée. Cette annonce a eu lieu la veille du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel en janvier 2020. Les trois alliés se sont retirés de la CEDEAO. Nous reviendrons d'ailleurs sur le premier anniversaire de la création de l'AES avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa. Ce sera dans la partie magazine. Par ailleurs, une trentaine de personnalités appellent à la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, en détention depuis son renversement en juillet 2023. Les prix Nobel Denis Mukwege et Wole Soyinka et d'autres ont lancé cet appel dans une tribune publiée hier dans un quotidien français, Claire Morin-Gibourg.
Les auteurs de cet appel estiment que Mohamed Bazoum et sa femme Adiza sont les victimes d'une détention arbitraire qui entraîne des conséquences particulièrement douloureuses pour leur famille. Le couple est gardé sous la surveillance stricte d'hommes en armes, sans communication avec l'extérieur, dans des conditions de détention très sévères, jugent les auteurs de la tribune qui compte parmi les signataires l'écrivain camerounais Achille Bembe et l'ancien directeur de Human Rights Watch, Kenneth Roth. Ils appellent les hauts responsables politiques d'Afrique et du monde à exiger la libération de Bazoum, un chef d'État démocratiquement élu. Ils estiment qu'aucun grief n'a été communiqué à Mohamed Bazoum et qu'aucune explication n'a été fournie pour sa détention jusqu'à aujourd'hui.
Le président de Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo, a déclaré hier dimanche qu'il pourrait se présenter pour un second mandat si ses partisans le souhaitent. Mercredi dernier pourtant, M. Embalo avait déclaré qu'il ne briguerait pas un second mandat après son mandat actuel qui court jusqu'en 2025. J'avais déclaré que je ne me présenterai pas pour un second mandat suivant les conseils de ma femme et de ma famille. Et si vous pensez que je devrais revenir sur ma décision, alors je suis entièrement à votre disposition, a déclaré le président Embalo lors d'une réunion de soutien de son parti, Madame G15. Si vous pensez que je suis une solution pour ce pays, je serai là, a-t-il ajouté. Le président Embalo, 51 ans, a prêté serment pour un mandat de 5 ans en février 2020 à la tête de ce pays lusophone en proie à l'instabilité. En Guinée, le gouvernement a remis hier dimanche des terres aux milliers de victimes d'évictions survenues à Conakry sous les régimes précédents. Selon l'État, cette restitution vise à réparer des injustices subies par les populations depuis plus de 25 ans. Nani Talani.
Les associations représentant les victimes ont reçu les actes de propriété de 258 hectares situés à Wankifong, à quelques 60 km de Conakry. Le terrain sera géré par la société étatique Sonapi, qui sera responsable du développement du site et du relogement des victimes. Nous faisons un pas concret vers la guérison des blessures du passé de 2683 ménages, tout en posant les fondations d'un avenir partagé, a déclaré Mayumuna Laure Mabari, directrice générale de la Sonapi. Pour le porte-parole des victimes, Sambasso, la remise des terrains aux victimes symbolise la réparation d'une injustice pour les déguerpis de 98 et ceux de 2019. Des milliers de maisons, des écoles, des marchés et lieux de culte ont été détruits. La vie de plusieurs milliers de familles a été anéantie, selon M. Sow, qui appelle les autorités à mettre en place un fonds d'indemnisation pour les victimes. D'après Human Rights Watch, en 2019, le gouvernement de l'ex-président Alpha Condé avait expulsé plus de 20 000 personnes des quartiers Kaporo Rai, Kipe 2, Dimes et Dar es Salaam à Conakry sous prétexte que ces terrains seraient utilisés pour des constructions officielles. Une précédente opération de démolition dans les mêmes quartiers a eu lieu en 1998 sous le président Lansana Conté.
Le président comorien Azali Assoumani, visé vendredi par une attaque au couteau qui l'a légèrement blessé selon la présidence, était absent dimanche des célébrations officielles de Maoulid, l'anniversaire du prophète Mahomet, un événement qu'il manque pourtant très rarement. Le chef de l'État est en très bonne santé, mais il se repose pour ce week-end prolongé et dès mardi, il reprendra ses occupations, a déclaré Mahamoud Salim Afi, secrétaire général adjoint du gouvernement. Monsieur Azali, 65 ans, n'est plus apparu en public et ne s'est pas exprimé depuis qu'il a été attaqué par un jeune homme armé d'un couteau vendredi lors des funérailles d'un notable religieux dans une petite commune surplombant la capitale Moroni. Aucune image de lui n'a non plus circulé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la police fédérale FBI a annoncé hier qu'elle enquêtait sur une tentative d'assassinat présumée visant l'ancien président Donald Trump. Plus tôt, l'équipe de campagne de Donald Trump avait annoncé qu'il y avait eu des tirs à proximité de lui et que le candidat républicain était en sécurité. Les médias ont annoncé l'arrestation d'un individu. Informés de l'incident, Joe Biden et Kamala Harris ont condamné cette violence et se sont réjouis d'apprendre que Trump n'a pas été blessé. Michel Joseph.
Le Secret Service, police d'élite chargée de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a annoncé une enquête sur ces tirs qui se sont déroulés peu avant 14 heures locales, 18 heures GMT. Plusieurs de ces agents ont ouvert le feu sur un homme armé qui se trouvait près du bord du terrain de golf de Donald Trump et un fusil AK-47 à lunettes a été retrouvé, ainsi que deux sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo, ont précisé les autorités lors d'une conférence de presse. Le suspect a pris la fuite à bord d'une voiture noire, mais un témoin a permis à la police d'identifier le véhicule et les autorités l'ont retrouvé. L'ancien président, qui se trouvait dans son club de golf en Floride, selon des médias, est sain et sauf et en sécurité après des coups de feu à proximité de lui, a déclaré Stephen Chung, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump. Selon la Maison-Blanche, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont été informés et se sont dit soulagés d'apprendre que Donald Trump est sain et sauf. Le 13 juillet, l'ex-président a été blessé à l'oreille par des tirs qui ont fait un mort et deux blessés pendant un meeting de campagne en Pennsylvanie.
Les médias américains ont désigné Ryan Wesley Roth comme l'auteur de la tentative présumée d'assassinat. Les chaînes CNN et CBS ont rapporté que M. Roth était un constructeur indépendant de logements à Hawaï. Il affiche un casier judiciaire s'étalant sur plusieurs décennies et publie régulièrement des articles sur la politique et l'actualité, critiquant parfois M. Trump. Un missile de rebelles houthis yéménites a frappé hier le centre d'Israël sans faire de victimes, intensifiant les tensions régionales en pleine guerre à Gaza. Parallèlement, des tracts israéliens ont demandé aux habitants du sud du Liban de quitter les zones proches des camps de réfugiés en raison des tirs du Hezbollah. Abdourahman Dia.
Un missile sol-sol tiré depuis le Yémen est tombé dans une zone dégagée, a indiqué l'armée israélienne, ajoutant qu'aucun blessé n'a été signalé. Les Houthis, de leur côté, soutiennent que l'attaque menée avec un nouveau missile balistique hypersonique a atteint sa cible, une position militaire à Jaffa, dans l'agglomération de Tel Aviv. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu que les Houthis vont payer un lourd tribut après leur tentative de nuire à Israël. L'ennemi israélien doit s'attendre à d'autres frappes à l'approche du premier anniversaire de l'opération Béni du 7 octobre, ont affirmé les rebelles houthis qui agissent en solidarité avec le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien a salué cette attaque des houthis, estimant qu'elle montre les limites de la défense israélienne. Au sud du Liban, des tracts israéliens ont été largués ce dimanche pour la première fois, demandant à des habitants d'évacuer. L'armée israélienne affirme qu'il s'agit d'une initiative de la brigade de 769 qui n'a pas été approuvée par le commandement du Nord et qu'une enquête a été ouverte.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Au Nigeria, après 8 ans de travaux, la raffinerie Aliko Dangote, la plus grande d'Afrique, a commencé à livrer ses premiers litres d'essence dimanche. Environ 500 camions-citernes ont été acheminés à une raffinerie située à l'est de Lagos, emportant 25 millions de litres d'essence. La raffinerie, d'une capacité à terme de 650 000 barils par jour, est censée couvrir l'intégralité des besoins en carburant du pays et exporter une partie de sa production. Au Bénin, l'activité économique et les prix des aliments ont augmenté de 6,6% cette année, en partie en raison de la hausse des exportations vers les pays voisins, estime une équipe du FMI qui vient de séjourner à Cotonou. Le gouvernement prévoit d'étendre son programme d'alimentation scolaire à toutes les écoles primaires des zones rurales du pays. Pour terminer, le Kenya a accordé une concession de partenariat public-privé de 1,3 milliard de dollars au groupe indien Adani et à Africa 50, une filiale de la BAD, pour construire des lignes de transmission d'électricité. Ces fonds ne vont pas nécessiter d'emprunt, assure la présidence. Par ailleurs, Nairobi a proposé de louer l'aéroport international Jomo Kenyatta au groupe Adani pour 30 ans en échange d'un investissement de 1,85 milliard de dollars. Cette décision a provoqué une forte réaction des Kenyans et entraîné une grève des travailleurs de l'aviation.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Élisée Oumpassine. Salut Élisée.
Oui, bonjour Mohamedou et bonjour à tous.
Les coupes africaines des clubs de football à l'honneur avec le deuxième tour préliminaire aller sans oublier la Champions League.
Oui, et le tenant du titre Al Ahly du Caire a presque assuré sa qualification pour la phase de poule après avoir battu 3-0 Gomaya. Victoire en déplacement aussi de Mamelodi Sundowns et de l'Espérance de Tunis. Sinon, globalement, les favoris ont été au rendez-vous avec les victoires du TP Mazembe 2-0 chez les Zambiens de Red Arrows et des Tanzaniens de Young Africans 1-0 sur la pelouse des Éthiopiens de Commercial Bank.
Les deux représentants ivoiriens ont connu des fortunes diverses.
Tout d'abord, le FC San Pedro, accroché 2-2 à domicile par les Soudanais d'Al Hilal. Puis, le Stade d'Abidjan qui s'impose 2-0 devant les Guinéens de Milo FC. Belle performance également de l'AS Souane du Burkina Faso, vainqueur 1-0 à domicile devant les Algériens du Sierre Belouizdad. Pareil pour le Djoliba de Bamako qui recevait l'ASCO de Kara. Petit faux pas en revanche pour les Égyptiens de Pyramide, accrochés 1-1 par les Rwandais d'APR, tout comme les Marocains de l'ASFAR qui concèdent le nul 2-2 face aux Soudanais d'Almeriek. Et puis, défaite 2-1 des Angolais du Petro de Luanda sur la pelouse des Congolais de Maniema Union.
En Coupe de la Confédération Élysée, le Zamalek du Caire se rassure à l'extérieur.
Victoire 1-0 chez les Kenyans de Police FC. Succès également des Togolais de la SEK, 2-1 opposé à la SEC d'Abidjan. Des Sud-Africains de Stellenbosch, 2-0 aux dépens de la SV Club de Kinshasa. Même score en faveur de la Renaissance de Berkane en déplacement chez les Béninois de Dadjé FC d'Aplahoué. Un résultat qui compromet la chance de qualification du club de l'Ouest du Bénin, mais son entraîneur, l'Ivoirien Yaya Koné, y croit encore.
On savait qu'on avait à faire un gros morceau. Il fallait déjà tactiquement être en place, il fallait pas se découvrir, ben c'est ce qu'on a réussi à faire. Après, en seconde mi-temps, vous savez, l'expérience en face a prévalu. Quand on regarde le but qu'on prend, c'est quand même des erreurs individuelles. Cette défaite ne va pas nous froisser, tout au contraire. On va continuer de travailler.
Yaya Koné, entraîneur de Dadjé FC d'Aplahoué. Les autres résultats. Le Stade tunisien s'impose 1-0 sur les Algériens de l'USM. L'AS Auto s'incline 1-0 face aux Mozambicains de Black Bull. Défaite pour le Stade malien face aux Libériens de Pentzville. Et puis nul blanc entre Racing Club d'Abidjan et le Jarab du Sénégal. Les matchs retour des deux compétitions auront lieu en fin de cette semaine.
Football en salle cette fois avec le mondial en Ouzbékistan.
et belle entame de la Libye, victorieuse 3-1 de la Nouvelle-Zélande. Par contre, l'Angola s'incline 6-4 devant l'Afghanistan. Aujourd'hui, le troisième représentant africain, le Maroc, entre en compétition face au Tadjikistan.
Merci Élisée. Vous êtes à l'écho du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumpa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Ce 16 septembre marque le premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, le regroupement du Burkina Faso, du Mali et du Niger, trois pays sahéliens confrontés au terrorisme et dirigés par des régimes militaires. Le traité du Liptapo-Gourma, qui institue cette alliance, lie les trois pays par un pacte de défense mutuelle visant à lutter contre le terrorisme et à contrer toute menace de rébellion ou d'agression extérieure. L'alliance est par la suite devenue une confédération. Que retenir de cette première année de l'AES en termes de résultats? Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a recueilli les avis de quelques citoyens à Niamey.
Sur la question des résultats auxquels l'Alliance des États du Sahel est parvenue après une année d'existence, les avis sont partagés. El Hadj Salissou Adamou, acteur de la société civile.
Le résultat de l'AES, vous savez, en fait, là, ce qui concerne la sécurité, ça a été atteint. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on peut franchir les frontières pour aller combattre les terroristes. Deuxièmement, des mécanismes qu'on avait mis en place. Aujourd'hui, nous sommes en train de conjuguer nos efforts pour voir les textes. Qui maintenant, ça veut dire qu'on a hérité de ce colonial. Car nous mettre en place pour qu'on ait, ça veut dire qu'il y ait un développement à tous les niveaux.
Pour Falmata Taya également, beaucoup de résultats sont atteints. Il reste un cependant, même s'il ne figure pas parmi les objectifs initiaux de l'AES, c'est celui de la création de la monnaie.
C'est ce qui nous reste à envisager ou bien à mettre le point là-dessus. Les experts en la matière sont en train de faire les études. C'est ce qui est en train d'être attendu de tous les trois pays. Et je pense bien que si ça va se mettre sur la table, concrétiser, je pense que l'AES, elle ne va que recevoir des pays, amis et frères, qui se sont égarés dans cette affaire de CEDEAO.
Souley Oumarou, président du Forum pour une citoyenneté responsable, est d'avis totalement contraire.
Un résultat, je dirais, mitigé, puisque on n'a jamais vu des actions coordonnées par l'AES depuis sa création. En tout cas, nous n'avons pas vu des avancées significatives, sauf à quelques moments des concertations et des conciliabules qui n'ont pas donné des résultats sur le terrain, puisque l'objectif quand même, c'est tout naturellement c'est la sécurisation des trois États.
Pour l'analyste et commentateur des questions sahéliennes Al-Kassoum Abdraman, les défis restent entiers pour l'Alliance des États du Sahel malgré les avancées. Selon lui, un travail plus soutenu doit être poursuivi pour une opérationnalisation poussée de l'organisation.
Pour les trois pays, il faut que ça soit différent de la G5 qui comptait notamment sur les soutiens techniques et financiers des pays extérieurs, notamment les pays occidentaux. C'est des soutiens qu'elle n'a pas réussi à mobiliser cette alliance, et je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui en termes des prismes. Donc cette alliance des AES, elle se concentre, elle se base beaucoup plus sur les forces de ces trois États qui la composent, et on voit que aussi ça suscite aussi des intérêts venant d'autres pays, notamment les Togo et les Tchad, qui ont joint les opérations militaires communes, notamment dans la zone de Tilia, le long de la frontière avec le Mali.
Le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel a eu lieu en juillet dernier, sommet au cours duquel un traité établissant une confédération des États du Sahel a été signé, avec pour but une intégration plus poussée entre les États membres. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Rendons-nous maintenant au Bénin, où les élèves et autres acteurs de l'éducation reprennent le chemin de l'école ce lundi matin. Une année scolaire qui démarre dans une ambiance marquée par la cherté de la vie. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Après plus de deux mois de repos, l'école béninoise a ouvert ses portes au grand bonheur des acteurs pressés de se retrouver.
Je suis contente de commencer la rentrée scolaire. Je veux revoir mes camarades et s'amuser avec eux et travailler avec mes maîtres à l'école.
Si dans certaines écoles, la pré-rentrée qui a eu lieu une semaine plus tôt a permis de tout mettre en ordre pour ce lundi, ailleurs, le travail risque de ne pas démarrer aujourd'hui.
Le constat que je fais est que tout n'est pas encore prêt, puisque vous constatez avec que la cour est encore dans un état peu propre et que les parents continuent d'arriver malgré tout ce qui a été pris comme disposition. Les parents continuent d'arriver. On dirait que c'est aujourd'hui qu'ils ont choisi de faire inscrire leurs apprenants. Et que bon, il y a certains enfants qui sont là sans la tenue tatie, sans la moindre fourniture.
Parlons justement des fournitures. Les prix sont montés en flèche selon les commerçants.
Il y a eu un peu de la montée des prix de certains articles, surtout au niveau des hivers, je dirais que par exemple, il y avait des cols de 100 francs qui ont monté à 200 déjà. Et il y a des livres aussi qui ont monté. Il y a des livres qui manquent surtout. Et en tout cas, les prix ont monté. Et ça cause aussi un peu de soucis au niveau des clients.
Et l'année passée, on avait fait le paquet de cahiers à 1000 francs, 1100 francs au plus. Mais cette année, les prix ont grimpé jusqu'à 1500. Ça dépend de la qualité. Donc c'est un peu ça.
Le temps est si dur que certains parents qui avaient inscrit leurs enfants dans des écoles privées font leur retour dans les écoles publiques.
Je suis venu sacrifier à la tradition pour inscrire mes enfants. Ils étaient beaucoup privés en temps. Vu la charité de la vie, j'ai dû rebousser chemin. Donc c'est pourquoi j'ai dû recourir à l'EPP pour savoir comment faire.
Même les écoles vendent les fournitures scolaires au grand désarroi des commerçants. Là encore, le défilé des parents se fait plus pour des questions d'achat de matériel que discuter le contenu d'éducation.
J'ai été à l'école, j'ai demandé la liste et puis voilà.
Les gens viennent ici, mais pas... Bon, il y a d'autres personnes qui viennent ici acheter, mais ils ne sont pas encore sortis comme... Ça dit, on ne sent pas qui à la rentrée, quoi. La vente est un peu timide. Pas mieux, ils achètent des cahiers, des sacs, mais par rapport aux ventes, on voit qu'ils achètent plus de cahiers que les autres fournitures.
Les parents se plaignent pour les prix des fournitures scolaires et prêts pour une année paisible sans mouvement d'humeur des enseignants qui demandent toujours une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. De Cotonou, Gillette Feu Adonné pour VOA Afrique.
Au Gabon, un nouveau projet de constitution est sur la table des députés et sénateurs. Ce texte renforce les pouvoirs du futur chef de l'État avec l'instauration d'un régime présidentiel et supprime le poste de Premier ministre. Il sera désormais assisté d'un vice-président de la République et d'un vice-président du gouvernement. Cependant, les critères d'éligibilité à la fonction suprême restent parmi les dispositions les plus contestées. Voici quelques réactions recueillies par notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Marlène Fabienne et Soleil Fountam, juriste, incarne le front du refus au projet de constitution et dénonce une réforme liberticide.
On ne peut pas inscrire dans le corpus même de ce préambule eh bien, le rappel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et se permettre d'aller écrire dans le corpus du projet de constitution eh bien, la section des Gabonais, la hiérarchisation des Gabonais, la constitution d'une peut-être nationalité d'apatride.
L'une des dispositions les plus controversées du texte rend inéligible à la présidence les Gabonais nés de parents étrangers ou mariés à des étrangers. Pour Léandre Zui, acteur politique, ces critères sont non négociables.
Je suis très positif, non seulement en phase avec cette loi, nous la soutenons. Les Gabonais, dans leur entière majorité, veulent que leur pays soit dirigé par un Gabonais de souche. Et c'est ce qui va se passer. Je ne doute pas un seul instant qu'une majorité des Gabonais, une très large majorité des Gabonais, votera pour le oui à ce référendum.
Face à ces divergences, la société civile propose des amendements au texte en examen sur la table des parlementaires. Sentiment Ondor, porte-parole de la Coalition nationale pour la défense de la Constitution, en abrégé CNDC.
Les logiques identitaires ne représentent pas un problème au Gabon jusqu'à présent. Nous avons estimé que cette disposition devrait être abandonnée pour laisser la possibilité à tous les citoyens, sans discrimination, de se porter candidat à l'élection présidentielle s'ils le souhaitent.
À la tête d'un bloc de partis politiques proche du comité de transition, Alain Simplice Bouengueres appelle à la retenue, gage du succès des réformes initiées par de nouvelles autorités.
Nous ne devons pas perdre de vue l'objectif ultime de notre action en tant que politique, qui est la consolidation de la paix et du vivre ensemble, élément indispensable au développement de notre pays. C'est donc pourquoi, en tant que parti politique, nous sommes invités à accompagner les réformes entreprises dans le cadre de la transition, en ce sens qu'elles répondent aux aspirations légitimes du peuple et seront, je n'en doute pas, vous aussi j'en suis sûr, mises en œuvre de manière équitable.
Un appel à l'apaisement face à un climat pré-référendum tendu. Très attendu, la plénière de l'Assemblée constituante, elle travaille depuis quelques jours sur la version finale du projet de texte. Prochaine étape, le verdict du peuple en décembre prochain. Ismaël Obianze pour VO Afrique, Libreville.
Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto demande l'audit du fichier électoral avant la tenue de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Au cours d'un point de presse, le candidat du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, arrivé deuxième à la présidentielle de 2018, a dénoncé des manipulations visant à maintenir les chiffres du fichier électoral au niveau le plus bas possible. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le fichier électoral, encore non toileté, fait état de 855 085 nouveaux inscrits pour l'année 2024, parmi lesquels 8830 Camerounais de la diaspora. Pour Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ces chiffres ne reflètent pas la réalité de la diaspora sur les fichiers électoraux.
Depuis la clôture des inscriptions sur les listes électorales en août 2018, jusqu'en 2024, il n'y a pas eu d'opération d'inscription sur les listes électorales dans la diaspora. Il n'y a donc pas eu réunion des commissions. Il ne pouvait donc y avoir ni toilettage, ni refonte. Globalement, la diaspora camerounaise doit avoir 6 millions de personnes. Il y a moins de 20 000 inscrits camerounais inscrits dans toute la diaspora. Et ça, c'est la base des élections 2018, c'était 19 000.
Et les CAM, l'organe électoral dément toute volonté d'exclure les Camerounais de la diaspora du jeu électoral. Éric Essoussé, directeur général des élections.
On a eu un moment de léthargie quand il y a eu le Covid-19 qui a bloqué les déplacements et les communications. Ce qui a fait que la diaspora a été un peu mise de côté, mais sans être oubliée. Et dès que nous avons pu avoir la possibilité de nous remettre au travail, on l'a fait. Et on a repris ça au cours de cette année. On a visité les 46 missions diplomatiques et postes consulaires dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique.
Maurice Kamto a en outre dénoncé le flagrant délit de manipulation du fichier électoral actuel au profit du parti au pouvoir.
Et le cas, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis.
Les responsables d'élection de Cameroun affirment pour leur part que le système électoral étant inclusif, il est difficile d'y faire la fraude. Éric Essoussé, directeur général des élections.
Les partis politiques, tout le monde est dans la commission. C'est pour cela que vous voyez qu'au-delà des critiques qui peuvent peut-être apporter des améliorations dans la manière d'inscrire, mais pas dans les noms qui sont dans le fichier, parce que notre système veut que tout le monde est comptable de ce qu'on fait.
En visite au Cameroun, Volker Turk, le haut représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie, a indiqué la nécessité d'un scrutin apaisé au Cameroun en 2025.
Chaque période préélectorale est toujours délicate et sensible. Ce que je parlais avec les partis politiques et aussi de faire tout pour qu'il n'y ait pas un discours de haine. Parce que ça, c'est quelque chose absolument crucial dans n'importe quel pays.
Une délégation des Nations Unies a séjourné en juillet dernier au Cameroun et s'est entretenue avec l'administration, les formations politiques et la société civile sur les conditions d'une bonne organisation des prochaines élections au Cameroun. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.